Crime et châtiment, sixième partie, chapitre 3. Il était pressé de voir Svidrigaïlov. Ce qu'il pouvait espérer de cet homme, lui-même l'ignorait. Mais cet homme avait sur lui un mystérieux pouvoir. Depuis que Raskolnikov s'en était convaincu, l'inquiétude le dévorait. Et à présent, il n'y avait plus lieu de reculer le moment d'une explication. En chemin, une question le préoccupait surtout. Svidrigaïlov était-il allé chez Porfir? Autant qu'il en pouvait juger, non, Svidrigaïlov n'y était pas allé. Raskolnikov l'aurait juré. En repassant dans son esprit toutes les circonstances de la visite de Porfir, il arrivait toujours à la même conclusion négative. Mais si Svidrigaïlov n'était pas encore allé chez le juge d'instruction, est-ce qu'il n'irait pas? Sur ce point encore, le jeune homme était porté à se répondre négativement. Pourquoi? Il n'aurait pu donner les raisons de sa manière de voir, et lors même qu'il eût pu se l'expliquer, il ne se serait pas cassé la tête là-dessus. Tout cela le tracassait, et en même temps le laissait à peu près indifférent. Chose étrange, presque incroyable. Si critique que fût sa situation actuelle, Raskolnikov n'en avait qu'un assez faible souci. Ce qui le tourmentait, c'était une question bien plus importante, une question qui l'intéressait personnellement, mais qui n'était pas celle-là. En outre, il éprouvait une immense lassitude morale, quoiqu'il fût alors plus en état de raisonner que les jours précédents. Après tant de combats déjà livrés, fallait-il encore engager une nouvelle lutte pour triompher de ces misérables difficultés? Était-ce la peine, par exemple, d'aller faire le siège de Svidrigaïlov, d'essayer de le circonvenir, dans la crainte qu'il ne se rendît chez le juge d'instruction? Oh, que tout cela l'énervait! Pourtant, il avait hâte de voir Svidrigaïlov. Attendait-il de lui quelque chose de nouveau? Un conseil, un moyen de se tirer d'affaire? Les noyés se raccrochent à un fétu de paille. Était-ce la destinée ou l'instinct qui poussait ces deux hommes l'un vers l'autre? Peut-être Raskolnikov faisait-il cette démarche simplement parce qu'il ne savait plus à quel saint se vouer. Peut-être avait-il besoin d'un autre que de Svidrigaïlov et prenait-il ce dernier comme pis-aller? Sonia? Mais pourquoi maintenant irait-il chez Sonia? Pour la faire pleurer encore? D'ailleurs, Sonia l'effrayait. Sonia, c'était pour lui l'arrêt irrévocable, la décision sans appel. En ce moment surtout, il ne se sentait pas en état d'affronter la vue de la jeune fille. Non. Ne valait-il pas mieux faire une tentative auprès de Svidrigaïlov? Malgré lui, il s'avouait intérieurement que depuis longtemps déjà, Arkady Ivanovitch lui était en quelque sorte nécessaire. Cependant, que pouvait-il y avoir de commun entre eux? Leur scélératesse même n'était pas faite pour les rapprocher. Cet homme lui déplaisait beaucoup. Il était évidemment très débauché, à coup sûr côteleux et fourbe, peut-être fort méchant. Des légendes sinistres couraient sur son compte. À la vérité, il s'occupait des enfants de Catherine Ivanovna. Mais savait-on pourquoi il agissait ainsi? Chez un être pareil, il fallait toujours supposer quelque ténébreux dessein. Depuis plusieurs jours, une autre pensée encore ne cessait d'inquiéter Raskolnikov, quoiqu'il s'efforçât de la chasser, tant elle lui était pénible. « Svidrigaïlov tourne toujours autour de moi, » se disait-il souvent. Svidrigaïlov a découvert mon secret. Svidrigaïlov a eu des intentions sur ma sœur. Peut-être en a-t-il encore. C'est même le plus probable. Si, maintenant qu'il possède mon secret, il cherchait à s'en faire une arme contre Dounia. Cette pensée, qui parfois le troublait jusque dans son sommeil, ne s'était jamais offerte à lui avec autant de clarté qu'en ce moment où il se rendait chez Svidrigaïlov. D'abord, l'idée lui vint de tout dire à sa sœur, ce qui changerait singulièrement la situation. Puis il songea qu'il ferait bien d'aller se dénoncer, pour prévenir une démarche imprudente de la part de Dounetchka. La lettre ? Ce matin, Dounia avait reçu une lettre. Qui, à Pétersbourg, pouvait lui avoir écrit ? Ne serait-ce pas Lougine ? À la vérité, Razoumikine faisait bonne garde, mais Razoumikine ne savait rien. Ne devrais-je pas aussi tout dire à Razoumikine ? Se demanda avec un soulèvement de cœur Raskolnikov. En tout cas, il faut voir au plus tôt Svidrigailov. Grâce à Dieu, les détails ici importent moins que le fond de l'affaire. Mais si Svidrigailov a l'audace d'entreprendre quelque chose contre Dounia, eh bien, je le tuerai, décida-t-il. Un sentiment pénible l'oppressait. Il s'arrêta au milieu de la rue et promena ses regards autour de lui. Quel chemin avait-il pris ? Où était-il ? Il se trouvait sur la perspective, à 30 ou 40 pas du marché au foin qu'il avait traversé. Le second étage de la maison à gauche était occupé tout entier par un tractir. Toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes. À en juger par les têtes qui y apparaissaient, l'établissement devait être rempli de monde. Dans la salle, on chantait des chansons, on jouait de la clarinette, du violon et du tambour turc. Des cris de femmes se faisaient entendre. Surpris de se voir en cet endroit, le jeune homme allait rebrousser chemin, quand tout à coup, à l'une des fenêtres du tractir, il aperçut Svidrigailov, la pipe aux dents, assis devant une table à thé. Cette vue lui causa un étonnement mêlé de crainte. Svidrigailov le considérait en silence et, chose qui étonna plus encore Raskolnikov, il fit mine de se lever, comme s'il voulait s'éclipser tout doucement avant qu'on eût remarqué sa présence. Aussitôt, Raskolnikov feignit de ne le point voir et se mit à regarder de côté tout en continuant à l'examiner du coin de l'œil. L'inquiétude faisait battre son cœur. Évidemment, Svidrigailov tenait à n'être point aperçu. Il ôta sa pipe de sa bouche et voulut se dérober au regard de Raskolnikov. Mais en se levant et en écartant sa chaise, il reconnut sans doute qu'il était trop tard. C'était entre eux à peu près le même jeu de scène qu'au début de leur première entrevue dans la chambre de Raskolnikov. Chacun d'eux se savait observé par l'autre. Un sourire malicieux, de plus en plus accusé, se montrait sur le visage de Svidrigailov. À la fin, celui-ci partit d'un bruyant éclat de rire. « Eh bien, entrez, si vous voulez, je suis ici » cria-t-il de la fenêtre. Le jeune homme monta. Il trouva Svidrigailov dans une toute petite pièce attenant à une grande salle où quantité de consommateurs, marchands, fonctionnaires et autres, étaient en train de boire du thé en écoutant des choristes qui faisaient un vacarme épouvantable. Dans une chambre voisine, on jouait au billard. Svidrigailov avait devant lui une bouteille de champagne entamée et un verre à demi plein. Il était en compagnie de deux musiciens ambulants, un petit joueur d'orgue et une chanteuse. Celle-ci, jeune fille de 18 ans, fraîche et bien portante, avait une jupe d'une étoffe rayée et un chapeau tyrolien orné de rubans. Accompagnée par l'orgue, elle chantait, d'une voix de contralto assez forte, une chanson triviale au milieu du bruit qui arrivait de l'autre pièce. « Allons, c'est assez !» interrompit Svidrigailov lorsque Raskolnikov entra. La jeune fille s'arrêta aussitôt et attendit dans une attitude respectueuse. Tout à l'heure, pendant qu'elle faisait entendre ses inepties mélodiques, il y avait aussi une nuance de respect dans l'expression sérieuse de sa physionomie. « Hé, Philippe ! « Un verre !» cria Svidrigailov. « Je ne boirai pas de vin, » dit Raskolnikov. « Comme vous voudrez. Bois, Katia. À présent, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux t'en aller. » Il versa un grand verre de vin à la jeune fille et lui donna un petit billet de couleur jaunâtre. Katia but le verre à petite gorgée, comme les femmes boivent le vin, et après avoir pris l'assignat, elle baisa la main de Svidrigailov, qui accepta, de l'air le plus sérieux, ce témoignage de respect servile. puis la chanteuse se retira, suivie du petit joueur d'orgue. Il n'y avait pas 8 jours que Svidrigaïlov était à Pétersbourg, et déjà on l'eût pris pour un vieil habitué de la maison. Le garçon, Philippe, le connaissait et lui témoignait des égards particuliers. La porte, donnant accès à la salle, était fermée. Svidrigaïlov se trouvait comme chez lui dans cette petite pièce, où il passait peut-être les journées entières. Le traktir, sale et ignoble, n'appartenait même pas à la catégorie moyenne des établissements de ce genre. « J'allais chez vous, » commença Raskolnikov. « Mais comment se fait-il qu'en quittant le marché au foin, j'ai pris la perspective ?»« Je ne passe jamais par ici. Je prends toujours à droite au sortir du marché au foin. Ce n'est pas non plus le chemin pour aller chez vous. À peine ai-je tourné de ce côté que je vous aperçois. C'est étrange. Pourquoi ne dites-vous pas tout de suite ? C'est un miracle. » ?»« Parce que ce n'est peut-être qu'un hasard. » »« C'est un pli que tout le monde a ici. » reprit en riant Svidrigaïlov. Lors même qu'au fond on croit à un miracle, on n'ose pas l'avouer. Vous dites vous-même que ce n'est peut-être qu'un hasard. Combien peu l'on a ici le courage de son opinion, vous ne pouvez vous l'imaginer, Rodion Romanovitch. Je ne dis pas cela pour vous. Vous possédez une opinion personnelle et vous n'avez pas craint de l'affirmer. C'est même par là que vous avez attiré ma curiosité. Par là seulement ? C'est bien assez. Svidrigaïlov était dans un visible état d'excitation, bien qu'il n'eût bu qu'un demi-verre de vin. Quand vous êtes venu chez moi, me semble-t-il, vous ignoriez encore si je pouvais avoir ce que vous appelez une opinion personnelle, observa Raskolnikov. Alors c'était autre chose, chacun a ses affaires. Mais quant au miracle, je vous dirai que vous avez apparemment dormi tous ces jours-ci. Je vous ai moi-même donné l'adresse de ce traktir, et il n'est pas étonnant que vous y soyez venu tout droit. Je vous ai indiqué le chemin à suivre et les heures où l'on peut me trouver ici. Vous en souvenez-vous ?
Je l'ai oublié, répondit Raskolnikov avec surprise.
Je le crois. À 2 reprises, je vous ai donné ces indications. L'adresse s'est gravée machinalement dans votre mémoire, et elle vous a guidé à votre insu. Du reste, pendant que je vous parlais, je voyais bien que vous aviez l'esprit absent. Vous ne vous observez pas assez, Rodion Romanovitch. Mais voici encore quelque chose. Je suis convaincu qu'à Pétersbourg, nombre de gens cheminent en se parlant à eux-mêmes. C'est une ville de demi-fous. Si nous avions des savants, les médecins, les juristes et les philosophes pourraient faire ici des études très curieuses, chacun dans sa spécialité. Il n'y a guère de lieu où l'âme humaine soit soumise à des influences si sombres et si étranges. L'action seule du climat est déjà funeste. Malheureusement, Pétersbourg est le centre administratif du pays, et son caractère doit se refléter sur toute la Russie. Mais il ne s'agit pas de cela maintenant. Je voulais vous dire que je vous ai déjà vu plusieurs fois passer dans la rue. En sortant de chez vous, vous tenez la tête droite. Après avoir fait 20 pas, vous la baissez et vous vous croisez les mains derrière le dos. Vous regardez, et il est évident que, ni devant ni à vos côtés, vous ne voyez rien. Finalement, vous vous mettez à remuer les lèvres et à converser avec vous-même. Parfois alors, vous gesticulez, vous déclamez, vous vous arrêtez au milieu de la voie publique pour un temps plus ou moins long. Voilà qui ne vaut rien du tout. D'autres que moi peut-être vous remarquent, et cela n'est pas sans danger. Au fond, peu m'importe, je n'ai pas la prétention de vous guérir, mais vous me comprenez sans doute.
Vous savez qu'on me suit ? Demanda Raskolnikov en attachant un regard songeur sur Svidrigaïlov.
Non, je n'en sais rien, reprit celui-ci d'un air étonné. Eh bien, alors ne parlons plus de moi, grommela en fronçant le sourcil Raskolnikov. Soit, nous ne parlerons plus de vous. Répondez plutôt à ceci. S'il est vrai qu'à 2 reprises vous m'ayez indiqué ce
sortir, comme un endroit où je pouvais vous rencontrer. Pourquoi donc, tout à l'heure, quand j'ai levé les yeux vers la fenêtre, vous êtes-vous caché et avez-vous essayé de vous esquiver? J'ai fort bien remarqué cela. Mais pourquoi l'autre jour, quand je suis entrée dans votre chambre, avez-vous fait semblant de dormir? Quoique vous fussiez parfaitement éveillée, j'ai fort bien remarqué cela. Je pouvais avoir des raisons, vous le savez vous-même. Et moi, je pouvais avoir aussi mes raisons, bien que vous ne les connaissiez pas. Depuis une minute, Raskolnikov considérait attentivement le visage de son interlocuteur. Cette figure lui causait toujours un nouvel étonnement. Quoique belle, elle avait quelque chose de profondément antipathique. On l'eût prise pour un masque. Le teint était trop frais, les lèvres trop vermeilles, la barbe trop blonde, les cheveux trop épais, les yeux trop bleus et leur regard trop fixe. Svidrigaïlov portait un élégant costume d'été. Son linge était d'une blancheur et d'une finesse irréprochables. Un gros anneau, rehaussé d'une pierre de prix, se jouait à l'un de ses doigts. « Entre nous, les tergiversations ne sont plus de mise, » dit brusquement le jeune homme. « Quoique vous soyez peut-être en mesure de me faire beaucoup de mal si vous avez envie de me nuire, je vais vous parler franc et net. » Sachez donc que si vous avez toujours les mêmes vues sur ma sœur, et si vous comptez vous servir, pour arriver à vos fins, du secret que vous avez surpris dernièrement, je vous tuerai avant que vous m'ayez fait mettre en prison. Je vous en donne ma parole d'honneur. En second lieu, j'ai cru remarquer ces jours-ci que vous désiriez avoir un entretien avec moi. Si vous avez quelque chose à me communiquer, dépêchez-vous, car le temps est précieux. Et bientôt peut-être il sera trop tard. Qu'est-ce donc qui vous presse tant? Demanda Svidrigaïlov en le regardant avec curiosité. Chacun a ses affaires, répliqua d'un air sombre Raskolnikov. Vous venez de m'inviter à la franchise, et à la première question que je vous adresse, vous refusez de répondre, observa avec un sourire Svidrigaïlov. Vous me supposez toujours certains projets. Aussi me regardez-vous d'un œil défiant. Dans votre position, cela se comprend fort bien. Mais quelque désir que j'aie de vivre en bonne intelligence avec vous, je ne prendrai pas la peine de vous détromper. Vraiment, le jeu n'en vaut pas la chandelle, et je n'ai rien de particulier à vous dire. Alors, que me voulez-vous? Pourquoi êtes-vous toujours à tourner autour de moi? Tout simplement parce que vous êtes un sujet curieux à observer. Vous m'avez plu par le côté fantastique de votre situation, voilà. En outre, vous êtes le frère d'une personne qui m'a beaucoup intéressée. Elle m'a parlé de vous bien des fois, et son langage m'a donné à penser que vous avez une grande influence sur elle. Est-ce que ce ne sont pas là des raisons suffisantes? Du reste, je l'avoue. Votre question est pour moi fort complexe, et il m'est difficile d'y répondre. Tenez, vous, par exemple, si vous êtes venu me trouver à présent, ce n'est pas seulement pour affaire, mais dans l'espoir que je vous dirai quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Répéta avec un sourire finaud Svidrigaïlov. Eh bien, figurez-vous que moi-même, en me rendant à Pétersbourg, je comptais aussi que vous me diriez quelque chose de nouveau. J'espérais pouvoir vous emprunter quelque chose. Voilà comme nous sommes, nous autres riches. M'emprunter quoi? Est-ce que je sais? Vous voyez dans quel misérable tractir je suis toute la journée, reprit Svidrigaïlov. Ce n'est pas que je m'y amuse, mais il faut bien passer son temps quelque part. Je me distrais avec cette pauvre Katia qui vient de sortir. Si j'avais la chance d'être un goinfre, un gastronome de club, mais non, voilà tout ce que je peux manger. » Il montrait du doigt sur une petite table placée dans un coin, un plat de fer blanc qui contenait les restes d'un mauvais beefsteak aux pommes. « À propos, avez-vous dîné? Quant au vin, je n'en bois pas, à l'exception du champagne. Et encore, un verre me suffit pour toute la soirée. Si j'ai demandé cette bouteille aujourd'hui, c'est parce que je dois aller quelque part tout à l'heure. J'ai voulu, au préalable, me monter un peu la tête. Vous me voyez dans une disposition d'esprit particulière. Tantôt, je me suis caché comme un écolier, parce que j'appréhendais dans votre visite un dérangement pour moi. Mais je crois pouvoir passer une heure avec vous. Il est maintenant 4h30, ajouta-t-il après avoir regardé sa montre. Le croiriez-vous ? Il y a des moments où je regrette de n'être rien, ni propriétaire, ni père de famille, ni Ulan, ni photographe, ni journaliste. C'est parfois ennuyeux de n'avoir aucune spécialité. Vraiment, je pensais que vous me diriez quelque chose de nouveau. Qui êtes-vous ? Et pourquoi êtes-vous venu ici ?
Qui je suis ? Vous le savez, je suis gentilhomme. J'ai servi 2 ans dans la cavalerie, après quoi j'ai flâné sur le pavé de Pétersbourg. Ensuite, j'ai épousé Marfa Petrovna et je suis allé demeurer à la campagne. Voilà ma biographie.
Vous êtes joueur, paraît-il.
Moi, joueur ? Non, dites plutôt que je suis un Grec.
Ah, vous trichiez au jeu ?
Oui.
Vous avez dû quelquefois recevoir des gifles.
Cela m'est arrivé, en effet. Pourquoi ?
Eh bien, vous pouviez vous battre en duel. Cela procure des sensations.
Je n'ai pas d'objection à vous faire. D'ailleurs, je ne suis pas fort sur la discussion philosophique. Je vous avoue que si je suis venu ici, c'est surtout pour les femmes.
Tout de suite, après avoir enterré Marfa Petrovna ?
Svidrigaïlov sourit.
« Eh bien, oui, » répondit-il avec une franchise déconcertante. « Vous avez l'air scandalisé de ce que je vous dis. »«
Vous vous étonnez que la débauche me scandalise ?»«
Et pourquoi me gênerais-je, je vous prie ? Pourquoi renoncerais-je aux femmes puisque je les aime ? C'est au moins une occupation. »
Raskolnikov se leva. Il se sentait mal à l'aise et regrettait d'être venu là. Svidrigaïlov lui apparaissait comme le scélérat le plus dépravé qu'il y eût au monde.
« Eh, restez donc encore un moment. Faites-vous apporter du thé. Allons, asseyez-vous. Je vous raconterai quelque chose. Voulez-vous que je vous apprenne comment une femme a entrepris de me convertir ? Ce sera même une réponse à votre première question, attendu qu'il s'agit ici de votre sœur. Puis-je raconter ? Nous tuerons le temps. »
« Soit, mais j'espère que vous... »«
Oh, n'ayez pas peur. Du reste, même à un homme aussi vicieux que moi, Avdotia Romanovna ne peut inspirer que la plus profonde estime. Je crois l'avoir comprise, et je m'en fais honneur. Mais, vous savez, quand on ne connaît pas encore bien les gens, on est sujet à se tromper, et c'est ce qu'il m'est arrivé avec votre sœur. Le diable m'emporte. » Pourquoi donc est-elle si belle ? Ce n'est pas ma faute. En un mot, cela a commencé chez moi par un caprice libidineux des plus violents. Il faut vous dire que Marfa Petrovna m'avait permis les paysannes. Or, on venait de nous emmener comme femme de chambre une jeune fille d'un village voisin, une nommée Paracha. Elle était fort jolie, mais sotte à un point incroyable. Ses larmes, les cris dont elle remplit toute la cour, occasionnèrent un véritable scandale. Un jour, après le dîner, Avdotia Romanovna me prit à part et, me regardant avec des yeux étincelants, exigea de moi que je laissasse la pauvre Paracha en repos. C'était peut-être la première fois que nous causions en tête à tête. Naturellement, je m'empressai d'obtempérer à sa demande. J'essayais de paraître ému, troublé. Bref, je jouais mon rôle en conscience. À partir de ce moment, nous eûmes fréquemment des entretiens secrets, durant lesquels elle me faisait de la morale, me suppliait, les larmes aux yeux, de changer de vie. Oui, les larmes aux yeux. Voilà jusqu'où va, chez certaines jeunes filles, la passion de la propagande. Bien entendu, j'imputais tous mes torts à la destinée. Je me donnais pour un homme altéré de lumière, et finalement, je mis en œuvre un moyen qui ne rate jamais son effet sur le cœur des femmes, la flatterie. J'espère que vous ne vous fâcherez pas si j'ajoute qu'Avdotia Romanovna elle-même ne fut pas tout d'abord insensible aux éloges dont je l'accablais. Malheureusement, je gâtais toute l'affaire par mon impatience et ma sottise. En causant avec votre sœur, j'aurais dû modérer l'éclat de mes yeux. Leur flamme l'inquiéta et finit par lui devenir odieuse. Sans entrer dans les détails, il me suffira de vous dire qu'une rupture eut lieu entre nous. À la suite de cela, je fis de nouvelles sottises. Je me répandis en grossier sarcasme à l'adresse des convertisseuses. Paracha rentra en scène et fut suivi de beaucoup d'autres. En un mot, je commençais à mener une existence absurde. Oh, si vous aviez vu alors, Rodion Romanovitch, les yeux de votre sœur, vous sauriez quels éclairs ils peuvent parfois lancer. Je vous assure que ces regards me poursuivaient jusque dans mon sommeil. J'en étais venue à ne plus pouvoir supporter le froufrou de sa robe. Je croyais vraiment que j'allais avoir une attaque d'épilepsie. Jamais je n'aurais supposé que l'affolement pût s'emparer de moi à un tel point. Il fallait de toute nécessité que je me réconciliasse avec Avdotia Romanovna, et la réconciliation était impossible. Imaginez-vous ce que j'ai fait alors. À quel degré de stupidité la rage peut-elle conduire un homme? N'entreprenez jamais rien dans cet état, Rodion Romanovitch. Songeant qu'Avdotia Romanovna était au fond une pauvresse. Oh, pardon, je ne voulais pas dire cela, mais le mot n'y fait rien. Qu'enfin, elle vivait de son travail, qu'elle avait à sa charge sa mère et vous. Oh, diable, vous froncez encore le sourcil. Je me décidai à lui offrir toute ma fortune. Je pouvais alors réaliser 30 000 roubles, et à lui proposer de s'enfuir avec moi à Pétersbourg. Une fois là, bien entendu, je lui aurais juré un amour éternel, etc. Le croirez-vous? J'étais tellement toquée d'elle à cette époque que si elle m'avait dit « Assassine ou empoisonne Marfa Petrovna et épouse-moi », je l'aurais fait immédiatement. Mais tout cela a fini par la catastrophe que vous connaissez, et vous pouvez juger combien j'ai été irritée en apprenant que ma femme avait négocié un mariage entre Avdotia Romanovna et ce misérable chicano de Lougine. Car, à tout prendre, autant eût valu pour votre sœur accepter mes offres que donner sa main à un pareil homme. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Je remarque que vous m'avez écouté avec beaucoup d'intention, intéressant jeune homme. Svidrigaïlov donna un violent coup de poing sur la table. Il était très rouge, et quoiqu'il eût bu à peine 2 verres de champagne, l'ivresse commençait à se manifester chez lui. Raskolnikov s'en aperçut et résolut de mettre à profit cette circonstance pour découvrir les intentions secrètes de celui qu'il considérait comme son ennemi le plus dangereux. « Eh bien, après cela, je ne doute plus que vous ne soyez venu ici pour ma sœur, » déclara-t-il d'autant plus hardiment qu'il voulait pousser à bout Svidrigaïlov. Ce dernier essaya aussitôt d'effacer l'effet produit par ses paroles. « Eh, laissez donc, ne vous ai-je pas dit? D'ailleurs, votre sœur ne peut pas me souffrir. » « J'en suis persuadé, mais il ne s'agit pas de cela. »« Vous êtes persuadé qu'elle ne peut pas me souffrir ?» reprit Svidrigaïlov en clignant de l'œil et en souriant d'un air moqueur. « Vous avez raison, elle ne m'aime pas. Mais ne répondez jamais de ce qui se passe entre un mari et sa femme, ou entre un amant et sa maîtresse. Il y a toujours un petit coin qui reste caché à tout le monde et n'est connu que des intéressés. » « Oseriez-vous affirmer qu'Avdotia Romanovna me voyait avec répugnance ?»«
Certains mots de votre récit me prouvent que maintenant encore vous avez d'infâmes desseins sur Dounia et que vous vous proposez de les mettre à exécution dans le plus bref délai. »«
Comment ? J'ai pu laisser échapper de pareils mots ?» fit Svidrigaïlov, devenu soudain fort inquiet. Du reste, il ne se formalisa nullement de l'épithète dont on qualifiait ses desseins.
Mais en ce moment même, vos arrière-pensées se trahissent. Pourquoi donc avez-vous si peur?
D'où vient cette crainte subite que vous témoignez à présent ?
J'ai peur ?
Peur de vous ? Quel conte me faites-vous là ? C'est plutôt vous, cher ami, qui devriez me craindre. Du reste, je suis ivre, je le vois. Un peu plus, j'allais encore lâcher une sottise. Oh, diable, le vin ! Eh, de l'eau !
Il prit la bouteille et, sans plus de façon, la jeta par la fenêtre. Philippe apporta de l'eau.
« Tout cela est absurde !» dit Svidrigaïlov en mouillant un essuie-main qu'il passa ensuite sur son visage.
« Et je puis, d'un mot, réduire à néant tous vos soupçons.
Savez-vous que je vais me marier ?»«
Vous me l'avez déjà dit. »«
Je vous l'ai dit, je l'avais oublié. Mais quand je vous ai annoncé mon prochain mariage, je ne pouvais vous en parler que sous une forme dubitative, car alors il n'y avait encore rien de fait. » Maintenant, c'est une affaire décidée. Et si j'étais libre en ce moment, je vous conduirais chez ma future. Je serais bien aise de savoir si vous approuvez mon choix.
Ah, diable, je n'ai plus que 10 minutes. Du reste, je vais vous raconter l'histoire de mon mariage. Elle est assez curieuse.
Eh bien, vous voulez encore vous en aller ?
Non, à présent, je ne vous quitte plus.
Plus du tout ?
Nous verrons un peu. « Sans doute, je vous ferai voir ma future, mais pas maintenant, car nous devrons bientôt nous dire adieu. Vous allez à droite et moi à gauche. Vous avez peut-être entendu parler de cette dame Reschlich, chez qui je loge actuellement. C'est elle qui m'a cuisiné tout cela.
« Tu t'ennuies, me disait-elle. Ce sera pour toi une distraction momentanée.
Je suis en effet un homme chagrin et maussade. Vous croyez que je suis gai ?
« Détrompez-vous, j'ai l'humeur fort sombre. Je ne fais de mal à personne, mais je reste quelquefois 3 jours de suite dans un coin, sans dire mot à qui que ce soit. »
D'ailleurs, cette friponne de Reschlich a son idée. Elle compte que je serai vite dégoûtée de ma femme, que je la planterai là, et alors elle la lancera dans la circulation. J'apprends par elle que le père, ancien fonctionnaire, est infirme. Depuis 3 ans, il a perdu l'usage de ses jambes et ne quitte plus son fauteuil. La mère est une dame fort intelligente. Le fils sert quelque part en province et ne vient pas en aide à ses parents. La fille aînée est mariée et ne donne pas de ses nouvelles. Les braves gens ont sur les bras 2 neveux en bas âge. Leur plus jeune fille a été retirée du gymnase avant d'avoir fini ses études. Elle aura 16 ans dans un mois. C'est d'elle qu'il est question pour moi. Muni de ces renseignements, je me présente à la famille comme un propriétaire, veuf, de bonne naissance, ayant des relations, de la fortune. Mes 50 ans ne suscitent pas la plus légère objection. Il aurait fallu me voir causant avec le papa et la maman. C'était d'un drôle. La jeune fille arrive, vêtue d'une robe courte, et me salue en rougissant comme une pivoine.
Sans doute on lui avait fait la leçon.
Je ne connais pas votre goût en fait de visage féminin, mais selon moi, ses 16 ans, ses yeux encore enfantins, cette timidité, ses petites larmes pudiques, tout cela a plus de charme que la beauté. D'ailleurs, la fillette est fort jolie, avec ses cheveux clairs, ses boucles capricieuses, ses lèvres purpurines et légèrement bouffies, ses petits petons. Bref. Nous avons fait connaissance, j'ai expliqué que des affaires de famille m'obligeaient à hâter mon mariage, et le lendemain, c'est-à-dire avant-hier, on nous a fiancés. Depuis lors, quand je vais la voir, je la tiens assise sur mes genoux pendant tout le temps de ma visite, et je l'embrasse à chaque minute. Elle rougit, mais elle se laisse faire. Sa maman lui a sans doute donné à entendre qu'un futur époux peut se permettre ses privautés. Ainsi compris, les droits du fiancé ne sont guère moins agréables à exercer que ceux du mari. C'est, on peut le dire, la nature et la vérité qui parlent dans cet enfant. J'ai causé 2 fois avec elle. La fillette n'est pas sotte du tout. Elle a une façon de me regarder à la dérobée qui incendie tout mon être. Sa physionomie ressemble un peu à celle de la Madone Sixtine. Vous avez remarqué l'expression fantastique que Raphaël a donnée à cette tête de vierge. Il y a quelque chose de cela.
Dès le lendemain des fiançailles, j'ai apporté à ma future pour 1 500 roubles de cadeaux, des diamants, des perles, un nécessaire de toilette en argent. Le petit visage de la Madone rayonnait. Hier, je ne me suis pas gênée pour la prendre sur mes genoux. Elle a rougi et j'ai vu dans ses yeux de petites larmes qu'elle essayait de cacher. On nous a laissés seuls ensemble. Alors, elle m'a jeté ses bras autour du cou et, en m'embrassant, m'a juré qu'elle serait pour moi une épouse bonne, obéissante et fidèle, qu'elle me rendrait heureux, qu'elle me consacrerait tous les instants de sa vie et qu'en retour, elle ne voulait de moi que mon estime, rien de plus. « Je n'ai pas besoin de cadeaux, » m'a-t-elle dit. Entendre un petit ange de 16 ans, les joues colorées par une pudeur virginale, vous faire une semblable déclaration avec des larmes d'enthousiasme dans les yeux, convenez-en vous-même, n'est-ce pas délicieux? Allons, écoutez, je vous conduirai chez ma fiancée, seulement je ne peux pas vous la montrer tout de suite. » En un mot, cette monstrueuse différence d'âge aiguillonne votre sensualité. Est-il possible que vous pensiez sérieusement à contracter un pareil mariage? Quel austère moraliste! Ricana Svidrigaïlov. Où la vertu va-t-elle se nicher? Savez-vous que vous m'amusez beaucoup avec vos exclamations indignées? Puis il appela Philippe, et après avoir payé sa consommation, il se leva. Je regrette vivement, continua-t-il, de ne pouvoir m'entretenir plus longtemps avec vous, mais nous nous reverrons. Vous n'avez qu'à prendre patience. Il sortit du traktir. Raskolnikov le suivit. L'ivresse de Svidrigaïlov se dissipait à vue d'œil. Il fronçait le sourcil et paraissait très préoccupé, comme un homme qui est à la veille d'entreprendre une chose extrêmement importante. Depuis quelques minutes, une sorte d'impatience se trahissait dans ses allures, en même temps que son langage devenait caustique et agressif. Tout cela semblait justifier de plus en plus les appréhensions de Raskolnikov, qui résolut de s'attacher au pas de l'inquiétant personnage. Ils se retrouvèrent sur le trottoir. « Nous nous quittons ici. Vous allez à droite et moi à gauche, ou réciproquement. Adieu, mon bon. » Au plaisir de vous revoir. » Et il partit dans la direction du marché au foin. Chapitre 4. Raskolnikov se mit à lui emboîter le pas. « Qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria en se retournant Svidrigaïlov. « Je croyais vous avoir dit... »« Cela signifie que je suis décidé à vous accompagner. » « Quoi ?» Tous deux s'arrêtèrent et pendant un instant se mesurèrent des yeux. « Dans votre demi-ivresse, » répliqua Raskolnikov, « vous m'en avez dit assez pour me convaincre que loin d'avoir renoncé à vos odieux projets contre ma sœur, vous en êtes plus occupé que jamais. Je sais que ce matin, ma sœur a reçu une lettre. Vous n'avez pas perdu votre temps depuis votre arrivée à Pétersbourg. Qu'au cours de vos allées et venues, vous vous soyez trouvé une femme, c'est possible. Mais cela ne signifie rien. Je désire m'assurer personnellement. » De quoi, c'est bien au plus si Raskolnikov aurait su le dire. Vraiment? Voulez-vous que j'appelle la police? Appelez-la. Ils s'arrêtèrent de nouveau en face l'un de l'autre. À la fin, le visage de Svidrigaïlov changea d'expression. Voyant que la menace n'intimidait nullement Raskolnikov, il reprit soudain du ton le plus gai et le plus amical. « Que vous êtes drôle. J'ai fait exprès de ne pas vous parler de votre affaire, nonobstant la curiosité bien naturelle qu'elle a éveillée chez moi. Je voulais remettre cela à un autre moment. Mais, en vérité, vous feriez perdre patience à un mort. Allons, venez avec moi. Seulement, je vous en avertis, je ne rentre que pour prendre de l'argent. Ensuite, je sortirai, je monterai en voiture, et j'irai passer toute la soirée dans les îles. Eh bien, quel besoin avez-vous de me suivre? J'ai affaire dans votre maison, mais ce n'est pas chez vous que je vais. C'est chez Sophie Semenovna.
je dois m'excuser auprès d'elle de n'avoir pas assisté aux obsèques de sa belle-mère.
Comme il vous plaira, mais Sophie Semenovna est absente. Elle est allée conduire les trois enfants chez une vieille dame que je connais depuis longtemps et qui est à la tête de plusieurs orphelinats. J'ai fait le plus grand plaisir à cette dame en lui remettant de l'argent pour les babies de Catherine Ivanovna, plus un don pécuniaire au profit de ses établissements. Enfin, je lui ai raconté l'histoire de Sophie Semenovna, sans omettre aucun détail. Mon récit a produit un effet indescriptible. Voilà pourquoi Sophie Semenovna a été invitée à se rendre aujourd'hui même à l'hôtel où la barinia en question loge provisoirement depuis son retour de la campagne. N'importe, je passerai tout de même chez elle. Libre à vous, seulement je ne vous y accompagnerai pas. À quoi bon? Dites donc, je suis sûre que si vous vous défiez de moi, c'est parce que j'ai eu jusqu'ici la délicatesse de vous épargner des questions scabreuses. Vous devinez à quoi je fais allusion? Je gagerais que ma discrétion vous a paru extraordinaire. Soyez donc délicat pour en être ainsi récompensé.
Vous trouvez délicat d'écouter aux portes?
J'aurais été bien surpris que vous n'eussiez pas fait cette observation, répondit en riant Svidrigaïlov. Si vous croyez qu'il n'est pas permis d'écouter aux portes, mais qu'on peut à son gré assassiner les vieilles femmes, comme les magistrats pourraient n'être pas de cet avis, vous ferez bien de filer au plus tôt en Amérique. Partez vite, jeune homme, il est peut-être encore temps. Je vous parle en toute sincérité. Est-ce l'argent qui vous manque? Je vous en donnerai pour le voyage.
Je ne pense nullement à cela, reprit avec dégoût Raskolnikov.
Je comprends. Vous vous demandez si vous avez agi selon la morale, comme il s'y est à un homme et à un citoyen. Vous auriez dû vous poser la question plus tôt. À présent, elle est un peu intempestive. Si vous croyez avoir commis un crime, brûlez-vous la cervelle. N'est-ce pas ce que vous avez envie de faire?
Vous vous appliquez, me semble-t-il, à m'agacer dans l'espoir que je vous débarrasserai de ma présence.
Original que vous êtes! Mais nous sommes arrivés. Donnez-vous la peine de monter l'escalier. Tenez, voici l'entrée du logement de Sophie Semenovna. Regardez, il n'y a personne. Vous ne le croyez pas? Demandez au Capernaumov. Elle leur laisse sa clé. Voici justement Madame Capernaumov elle-même. Eh bien, quoi? Elle est un peu sourde. Sophie Semenovna est sortie? Où est-elle allée? Êtes-vous fixée à présent? Elle n'est pas ici, et elle ne reviendra peut-être que fort tard dans la soirée. Allons, maintenant venez chez moi. N'aviez-vous pas l'intention de me faire aussi une visite? Nous voici dans mon appartement. Madame Reslich est absente. Cette femme-là a toujours mille affaires en train. Mais c'est une excellente personne, je vous l'assure. Peut-être vous serait-elle utile si vous étiez un peu plus raisonnable. Vous voyez, je prends dans mon secrétaire un titre de 5%. Regardez combien il m'en restera encore. Celui-ci va être aujourd'hui converti en espèces. Vous avez bien vu, je n'ai plus rien à faire ici. Je ferme mon secrétaire, je ferme mon logement et nous revoici sur l'escalier. Si vous voulez, nous allons prendre une voiture. Je vais aux îles. Est-ce qu'une petite promenade en calèche ne vous dit rien? Vous entendez? J'ordonne à ce cocher de me conduire à la pointe des Laguines. Vous refusez? Vous en avez assez. Allons, laissez-vous tenter. La pluie menace, mais qu'à cela ne tienne, nous relèverons la capote.
Svidrigaïlov était déjà en voiture. Quelque éveillée que fût la défiance de Raskolnikov, ce dernier pensa qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Sans répondre un mot, il fit volte-face et rebroussa chemin dans la direction du marché au foin. S'il avait retourné la tête, il aurait pu voir que Svidrigaïlov, après avoir fait 100 pas en voiture, mettait pied à terre et payait son cocher. Mais le jeune homme marchait sans regarder derrière lui. Il eut bientôt tourné le coin de la rue. Comme toujours, quand il se trouvait seul, il ne tarda pas à tomber dans une profonde rêverie. Arrivé sur le pont, il s'arrêta devant la balustrade et tint ses yeux fixés sur le canal. Debout, à peu de distance de Raskolnikov, Avdotia Romanovna l'observait. En montant sur le pont, il avait passé près d'elle, mais il ne l'avait pas remarqué. À la vue de son frère, Dounetchka éprouva un sentiment de surprise et même d'inquiétude. Elle resta un moment à se demander si elle l'accosterait. Tout à coup, elle aperçut, du côté du marché au foin, Svidrigaïlov, qui se dirigeait rapidement vers elle. Mais celui-ci semblait avancer avec prudence et mystère. Il ne monta pas sur le pont et s'arrêta sur le trottoir, s'efforçant d'échapper à la vue de Raskolnikov. Depuis longtemps déjà, il avait remarqué Dounia et il lui faisait des signes. La jeune fille crut comprendre qu'il l'appelait auprès de lui et l'engageait à ne pas attirer l'attention de Rodion Romanovitch. Docile à cette invitation muette, Dounia s'éloigna sans bruit de son frère et rejoignit Svidrigaïlov.
« Allons plus vite !» lui dit tout bas ce dernier. « Je tiens à ce que Rodion Romanovitch ignore notre entrevue. Je vous préviens qu'il est venu me trouver tout à l'heure dans un tractir près d'ici et que j'ai eu beaucoup de peine à me débarrasser de lui. Il sait que je vous ai écrit une lettre et il soupçonne quelque chose. » « Assurément, ce n'est pas vous qui lui avez parlé de cela. Mais si ce n'est pas vous, qui est-ce donc ?»«
Voici que nous avons tourné le coin de la rue, » interrompit Dounia. « À présent, mon frère ne peut plus nous voir. Je vous déclare que je n'irai pas plus loin avec vous. Dites-moi tout ici. Tout cela peut se dire même en pleine rue. »
« D'abord, ce n'est pas sur la voie publique que peuvent se faire de pareilles confidences. »
Ensuite, vous devez entendre aussi Sophie Semenovna. En troisième lieu, il faut que je vous montre certains documents. Enfin, si vous ne consentez pas à venir chez moi, je refuse tout éclaircissement et je me retire à l'instant même. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vous prie, qu'un secret très curieux qui intéresse votre bien-aimé frère se trouve absolument entre mes mains.
Dounia s'arrêta indécise et attacha un regard perçant sur Svidrigaïlov.
« Que craignez-vous donc ? » observa tranquillement celui-ci. « La ville n'est pas la campagne, et à la campagne même, vous m'avez fait plus de mal que je ne vous en ai fait. »
« Sophie Semenovna est prévenue ? » ?»«
Non, je ne lui ai pas dit un mot, et même je ne suis pas sûre qu'elle soit maintenant chez elle. Du reste, elle doit y être. » Elle a enterré aujourd'hui sa belle-mère. Ce n'est pas un jour où l'on fait des visites. Pour le moment, je ne veux parler de cela à personne. Et je regrette même, jusqu'à un certain point, de m'en être ouvert à vous. En pareil cas, la moindre parole prononcée à la légère équivaut à une dénonciation. Je demeure ici près, vous voyez, dans cette maison. Voici notre dvornik. Il me connaît très bien. Voyez-vous, il salue. Il voit que je suis avec une dame, et sans doute il a pu déjà remarquer votre visage. Cette circonstance doit vous rassurer, si vous vous défiez de moi. Pardonnez-moi de vous parler aussi crûment. J'habite ici en garni. Il n'y a qu'un mur entre le logement de Sophie Semenovna et le mien. Tout l'étage est occupé par différents locataires. Pourquoi donc avez-vous peur comme un enfant? Qu'ai-je de si terrible?
Svidrigaïlov essaya d'esquiver un sourire débonnaire, mais son visage refusa de lui obéir. Son cœur battait avec force, et sa poitrine était oppressée. Il affectait d'élever la voix pour cacher l'agitation croissante qu'il éprouvait. Précaution superflue d'ailleurs, car Dounetchka ne remarquait chez lui rien de particulier. Les derniers mots de Svidrigaïlov avaient trop irrité l'orgueilleuse jeune fille pour qu'elle songeât à autre chose qu'à la blessure de son amour-propre.
« Quoique je sache que vous êtes un homme sans honneur, je ne vous crains pas du tout. Conduisez-moi, » dit-elle d'un ton calme que démentait, il est vrai, l'extrême pâleur de son visage. Svidrigaïlov s'arrêta devant le logement de Sonia.
« Permettez-moi de m'assurer si elle est chez elle. »
« Non, elle n'y est pas. Cela tombe mal. mais je sais qu'elle reviendra peut-être d'ici à très peu de temps. Elle n'a pu s'absenter que pour aller voir une dame au sujet des orphelins à qui elle s'intéresse. Je me suis aussi occupée de cette affaire. Si Sophie Semenovna n'est pas rentrée dans 10 minutes et que vous teniez absolument à lui parler, je l'enverrai chez vous aujourd'hui même. Voici mon appartement. Il se compose de ces 2 pièces. Derrière cette porte habite ma propriétaire, Madame Reslich. Maintenant, regardez par ici. Je vais vous montrer mes principaux documents. De ma chambre à coucher, la porte que voici conduit à un appartement de 2 pièces, lequel est entièrement vide. Voyez, il faut que vous preniez une connaissance exacte des lieux. Svidrigaïlov occupait 2 chambres garnies assez grandes. Dounetchka regardait autour d'elle avec défiance. Mais elle ne découvrit rien de suspect, ni dans l'ameublement, ni dans la disposition du local. Cependant, elle aurait pu remarquer, par exemple, que Svidrigaïlov logeait entre 2 appartements, en quelque sorte inhabités. Pour arriver chez lui, il fallait traverser 2 pièces à peu près vides, qui faisaient partie du logement de sa propriétaire. Ouvrant la porte, qui, de sa chambre à coucher, donnait accès à l'appartement non loué, il montra aussi ce dernier à Dounetchka. La jeune fille s'arrêta sur le seuil, ne comprenant pas pourquoi on l'invitait à regarder. Mais l'explication fut bientôt donnée par Svidrigaïlov. « Voyez cette grande chambre, la seconde. Remarquez cette porte fermée à la clé. À côté se trouve une chaise, la seule qu'il y ait dans les 2 pièces. C'est moi qui l'ai apportée de mon logement, pour écouter dans des conditions plus confortables. La table de Sophie Semenovna est placée juste derrière cette porte. La jeune fille était assise, là, et causait avec Rodion Romanovitch, tandis qu'ici, sur ma chaise, je prêtais l'oreille à leur conversation. Je suis restée à cette place 2 soirs de suite, et chaque fois pendant 2 heures. J'ai donc pu apprendre quelque chose. Qu'en pensez-vous ?
Vous étiez aux écoutes ?
Oui. Maintenant rentrons chez moi. Ici, l'on ne peut même pas s'asseoir. Il ramena Avdotia Romanovna dans sa première chambre, qui lui servait de salle, et offrit à la jeune fille un siège près de la table. Quant à lui, il prit place à distance respectueuse, mais ses yeux brillaient probablement du même feu qui, naguère, avait tant effrayé Dounetchka. Celle-ci frissonna, malgré l'assurance qu'elle s'efforçait de montrer, et promena de nouveau un regard défiant autour d'elle. La situation isolée du logement de Svidrigaïlov finit par attirer son attention. Elle voulut demander si, du moins, la propriétaire était chez elle, mais sa fierté ne lui permit pas de formuler cette question. D'ailleurs, l'inquiétude relative à sa sûreté personnelle n'était rien au prix de l'autre anxiété qui torturait son cœur.
Voici votre lettre, commença-t-elle en la déposant sur la table. Ce que vous m'avez écrit, est-il possible? Vous laissez entendre que mon frère aurait commis un crime. Vos insinuations sont trop claires, n'essayez pas maintenant de recourir à des subterfuges. Sachez qu'avant vos prétendues révélations, j'avais déjà entendu parler de ce conte absurde dont je ne crois pas un mot. L'odieux ici ne le cède qu'au ridicule. Ses soupçons me sont connus, et je n'ignore pas non plus ce qui les a fait naître. Vous ne pouvez avoir aucune preuve. Vous avez promis de prouver, parlez donc, mais je vous préviens que je ne vous crois pas. »
Dounetchka prononça ces paroles avec une extrême rapidité, et, pendant un instant, l'émotion qu'elle éprouvait fit monter le rouge à ses joues.
« Si vous ne me croyez pas, auriez-vous pu vous résoudre à venir seule chez moi ? Pourquoi donc êtes-vous venue ? Par pure curiosité ?
Ne me tourmentez pas. Parlez, parlez.
Il faut en convenir. Vous êtes une vaillante jeune fille. Je croyais, vraiment, que vous auriez prié M. Razoumikine de vous accompagner. Mais j'ai pu me convaincre que s'il n'est pas venu avec vous, il ne vous a pas non plus suivi à distance. C'est crâne de votre part. Vous avez voulu sans doute ménager Rodion Romanovitch. Du reste, en vous, tout est divin. En ce qui concerne votre frère, que vous dirais-je? Vous l'avez vu vous-même tout à l'heure. Comment le trouvez-vous?
Ce n'est pas là-dessus seulement que vous fondez votre accusation.
Non, ce n'est pas là-dessus, mais sur les propres paroles de Rodion Romanovitch. Il est venu 2 jours de suite passer la soirée ici, chez Sophie Semenovna. Je vous ai indiqué où ils étaient assis. Il a fait sa confession complète à la jeune fille. C'est un assassin. Il a tué une vieille usurière chez qui lui-même avait mis des objets en gage. Peu d'instants après le meurtre, la sœur de la victime, une marchande nommée Elisabeth, est entrée par hasard, et il l'a tuée également. Il s'est servi, pour égorger les deux femmes, d'une hache qu'il avait apportée avec lui. Son intention était de voler, et il a volé. Il a pris de l'argent et divers objets. Voilà, mot pour mot, ce qu'il a raconté à Sophie Semenovna. Elle seule connaît ce secret, mais elle n'a eu aucune part à l'assassinat. Loin de là, en entendant ce récit, elle a été tout aussi épouvantée que vous l'êtes maintenant. Soyez tranquille, ce n'est pas elle qui dénoncera votre frère.
« C'est impossible !»
balbutièrent les lèvres blêmes de Dounetchka, haletante.
« C'est impossible! Il n'avait pas la moindre raison, pas le plus petit motif de commettre ce crime. C'est un mensonge !»
Le vol révèle la cause du meurtre. Il a pris des valeurs et des bijoux. Il est vrai que de son aveu même, il n'a tiré profit ni des unes ni des autres, et qu'il est allé les cacher sous une pierre où ils sont encore. Mais c'est parce qu'il n'a pas osé en faire usage.
Est-il vraisemblable qu'il ait volé? Peut-il seulement avoir eu cette pensée?
S'écria Dounia, qui se leva vivement.
Vous le connaissez, vous l'avez vu. Est-ce qu'il vous fait l'effet d'un voleur?
Cette catégorie, Avdotia Romanovna, renferme un nombre infini de variétés. En général, les filous ont conscience de leur infamie. J'ai cependant entendu parler d'un homme plein de noblesse qui avait dévalisé un courrier. Que sait-on? Votre frère pensait peut-être accomplir une action louable. Moi-même, assurément, j'aurais, comme vous, refusé d'ajouter foi à cette histoire si je l'avais apprise par voie indirecte. Mais force m'a été de croire au témoignage de mes oreilles.
Où allez-vous donc, Avdotia Romanovna?
Je veux voir Sophie Semenovna, répondit d'une voix faible Dounetchka.
Où est l'entrée de son logement? Elle est peut-être revenue. Je veux absolument la voir tout de suite. Il faut qu'elle...
Avdotia Romanovna ne put achever. Elle étouffait littéralement.
Selon toute apparence, Sophie Semenovna ne sera pas de retour avant la nuit. Son absence devait être très courte, puisqu'elle n'est pas encore rentrée et il sera probablement fort tard.
Ah, c'est ainsi que tu mens. Je le vois, tu as menti, tu n'as dit que des mensonges. Je ne te crois pas, non, je ne te crois pas. S'écria Dounetchka dans un transport de colère qui lui ôtait la possession d'elle-même. Presque défaillante, elle tomba sur une chaise que Svidrigaïlov s'était hâté de lui avancer.
« Avdotia Romanovna, qu'avez-vous? Reprenez vos esprits. Voici de l'eau. Buvez-en une gorgée. »
Il lui jeta de l'eau au visage. La jeune fille tressaillit et revint à elle.
« Cela a produit de l'effet, » murmurait à part soi Svidrigaïlov en fronçant le sourcil.
« Avdotia Romanovna, calmez-vous. Sachez que Rodion Romanovitch a des amis. Nous le sauverons, nous le tirerons d'affaire. Voulez-vous que je l'emmène à l'étranger? J'ai de l'argent. D'ici à 3 jours, j'aurai réalisé tout mon avoir. Quant au meurtre, votre frère fera un tas de bonnes actions qui effaceront tout. Soyez tranquille. Il peut encore devenir un grand homme.
Eh bien, qu'avez-vous? Comment vous sentez-vous?
Le méchant, il faut encore qu'il se moque. Laissez-moi.
Où voulez-vous donc aller? auprès de lui. Où est-il?
Vous le savez. Pourquoi cette porte est-elle fermée?
C'est par là que nous sommes entrés, et maintenant elle est fermée à la clé. Quand l'avez-vous fermée?
Il n'était pas nécessaire que toute la maison entendît de quoi nous parlions ici. Dans l'état où vous êtes, pourquoi aller trouver votre frère? Voulez-vous causer sa perte? Votre démarche le mettra en fureur, et il ira lui-même se dénoncer. Sachez d'ailleurs qu'on a déjà l'œil sur lui, et que la moindre imprudence de votre part lui serait funeste. Attendez un moment. Je l'ai vu, et je lui ai parlé tout à l'heure. On peut encore le sauver. Asseyez-vous. Nous allons examiner ensemble ce qu'il y a à faire. C'est pour traiter cette question en tête à tête que je vous ai invité à venir chez moi. Mais asseyez-vous donc. Comment parviendrez-vous à le sauver? Est-ce que c'est possible?
Dounia s'assit. Svidrigaïlov prit place à côté d'elle.
Tout cela dépend de vous. De vous seul, commença-t-il d'un ton bas. Ses yeux étincelaient et son agitation était telle qu'il pouvait à peine parler.
Dounia, effrayée, se recula à quelque distance de lui.
Vous, un seul mot de vous, et il est sauvé,
continua-t-il, tremblant de tout son corps.
Je le sauverai. J'ai de l'argent et des amis. Je le ferai partir immédiatement pour l'étranger. Je lui procurerai un passeport. J'en prendrai deux. Un pour lui et un pour moi. J'ai des amis, sur le dévouement et l'intelligence desquels je puis compter. Voulez-vous? Je prendrai aussi un passeport pour vous, pour votre mère.
Que vous importe, Razoumikhin?
Mon amour vaut bien le sien. Je vous aime infiniment. Laissez-moi baiser le bas de votre robe. Je vous en prie. Le bruit que fait votre vêtement me met hors de moi. Ordonnez, j'exécuterai tous vos ordres, quels qu'ils soient. Je ferai l'impossible. Toutes vos croyances seront les miennes. Ne me regardez pas ainsi. Savez-vous que vous me tuez?
Il commençait à délirer. On eût dit qu'il venait d'être atteint d'aliénation mentale. Dounia ne fit qu'un saut jusqu'à la porte, qu'elle se mit à secouer de toutes ses forces.
« Ouvrez! Ouvrez !» cria-t-elle, espérant qu'on l'entendrait du dehors. « Ouvrez donc! Est-ce qu'il n'y a personne dans la maison ?»
Svidrigaïlov se leva. Il avait recouvré en partie son sang-froid. Un sourire amèrement moqueur errait sur ses lèvres encore tremblantes.
« Il n'y a personne ici, » dit-il lentement. « Ma logeuse est sortie, et vous avez tort de crier de la sorte. Vous vous donnez là une peine bien inutile. »
« Où est la clé? Ouvre la porte tout de suite! Tout de suite, homme bas !»«
J'ai perdu la clé, et je ne puis pas la trouver. »«
Ah, ainsi, c'est un guet-apens !»
vociféra Dounia, pâle comme la mort, et elle s'élança dans un coin, où elle se barricada en plaçant devant elle une petite table que le hasard mit sous sa main. Puis elle se tut, mais sans cesser de tenir les yeux fixés sur son ennemi, dont elle surveillait les moindres mouvements. Debout, en face d'elle, à l'autre extrémité de la chambre, Svidrigaïlov ne bougeait pas de sa place. Extérieurement, du moins, il était redevenu maître de lui-même. Toutefois, son visage restait pâle et son sourire continuait à narguer la jeune fille.
« Vous avez prononcé tout à l'heure le mot de « guet-apens » Avdotia Romanovna. « Si guet-apens il y a, vous devez bien penser que mes mesures sont prises. Sophie Semenovna n'est pas chez elle. 5 pièces nous séparent du logement des Capernaumov. Enfin, je suis au moins 2 fois plus fort que vous, et indépendamment de cela, je n'ai rien à craindre, car si vous portez plainte contre moi, votre frère est perdu. D'ailleurs, personne ne vous croira. Toutes les apparences déposent contre une jeune fille qui se rend seule au domicile d'un homme. Aussi, lors même que vous vous résoudriez à sacrifier votre frère, vous ne pourriez rien prouver. Il est fort difficile de faire la preuve d'un viol, Avdotia Romanovna.
Misérable ! Fit Dounia d'une voix basse, mais vibrante d'indignation.
Soit,
mais remarquez que jusqu'ici, j'ai simplement raisonné au point de vue de votre hypothèse. Personnellement, je suis de votre avis, et je trouve que le viol est un crime abominable. Tout ce que j'en ai dit, c'était pour rassurer votre conscience, dans le cas où vous... dans le cas où vous consentiriez de bon gré à sauver votre frère, comme je vous le propose. Vous pourrez vous dire que vous n'avez cédé qu'aux circonstances, à la force, s'il faut employer absolument ce mot. Pensez-y, le sort de votre frère et de votre mère est entre vos mains. Je serai votre esclave. Toute ma vie, je vais attendre ici. » Il s'assit sur le divan, à 8 pas de Dounia. La jeune fille ne doutait nullement que la résolution de Svidrigaïlov ne fût inébranlable. D'ailleurs, elle le connaissait. Tout à coup, elle tira de sa poche un revolver, l'arma et le plaça sur la table à portée de sa main. À cette vue, Svidrigaïlov poussa un cri de surprise et fit un brusque mouvement en avant. « Ah, c'est ainsi !» dit-il avec un méchant sourire. « Eh bien, voilà qui change la situation du tout au tout. Vous m'allégez singulièrement la tâche, Avdotia Romanovna. Mais où vous êtes-vous procuré ce revolver? Monsieur Razoumikine vous l'aurait-il prêté? Tiens, c'est le mien, je le reconnais. Je l'avais cherché, en effet, sans pouvoir le retrouver. Les leçons de tir que j'ai eu l'honneur de vous donner à la campagne n'auront pas été inutiles. » « Ce revolver n'était pas à toi, mais à Marfa Petrovna, que tu as tuée, scélérat. Rien ne t'appartenait dans sa maison. Je l'ai pris lorsque j'ai commencé à soupçonner de quoi tu étais capable. Si tu fais un seul pas, je jure que je te tuerai. » Dounia, exaspérée, s'apprêtait à mettre, le cas échéant, sa menace à exécution. « Eh bien, et votre frère? C'est par curiosité que je vous fais cette question. » dit Svidrigaïlov, toujours debout à la même place. « Dénonce-le si tu veux. N'avance pas ou je tire. Tu as empoisonné ta femme, je le sais. Tu es toi-même un assassin. » « Êtes-vous bien sûr que j'ai empoisonné Marfa Petrovna ?»« Oui, c'est toi-même qui me l'as donné à entendre. Tu m'as parlé de poison. Je sais que tu t'en étais procuré. C'est toi, c'est certainement toi, infâme. » Lors même que ce serait vrai, j'aurais fait cela pour toi. Tu en aurais été la cause. Tu mens! Je t'ai toujours détesté, toujours! Vous paraissez avoir oublié, Avdotia Romanovna, comment, dans votre zèle pour ma conversion, vous vous penchiez vers moi avec des regards langoureux. Je lisais dans vos yeux, vous rappelez-vous? Le soir, au clair de la lune, pendant que le rossignol chantait. « Tu mens !» La rage mit un éclair dans les prunelles de Dounia. « Tu mens, calomniateur !»« Je mens. Allons, soit, je mens. J'ai menti. Les femmes n'aiment pas qu'on leur rappelle ces petites choses-là. » reprit-il en souriant. « Je sais que tu tireras, joli petit monstre. Eh bien, vas-y !» Dounia le coucha en joue, n'attendant qu'un mouvement de lui pour faire feu. Une pâleur mortelle couvrait le visage de la jeune fille. Sa lèvre inférieure était agitée par un tremblement de colère et ses grands yeux noirs lançaient des flammes. Jamais Svidrigaïlov ne l'avait vue aussi belle. Il avança d'un pas, une détonation retentit. La balle lui effleura les cheveux et alla s'enfoncer dans le mur, derrière lui. Il s'arrêta. « Une piqûre de guêpe !» dit-il avec un léger rire. « C'est à la tête qu'elle vise. Qu'est-ce que cela? Je saigne !» Il tira son mouchoir pour essuyer un mince filet de sang qui coulait le long de sa tempe droite. La balle avait frôlé la peau du crâne. Dounia abaissa son arme et regarda Svidrigaïlov avec une sorte de stupeur. Elle semblait ne pas comprendre ce qu'elle venait de faire. « Eh bien, quoi? Vous m'avez manqué? Recommencez, j'attends !» poursuivit Svidrigaïlov, dont la gaieté avait quelque chose de sinistre. « Si vous tardez, j'aurai le temps de vous saisir avant que vous vous soyez mise en état de défense. »
Frissonnante, Dounetchka arma rapidement le revolver et en menaça de nouveau son persécuteur.
« Laissez-moi, » dit-elle avec désespoir. « Je jure que je vais encore tirer. Je vous tuerai. »
« À trois pas, il est impossible, en effet, que vous me manquiez. Mais si vous ne me tuez pas, alors... »
Dans les yeux étincelants de Svidrigaïlov, on pouvait lire le reste de sa pensée. Il fit encore deux pas en avant. Dounetchka tira. Le revolver fit long feu.
L'arme n'a pas été bien chargée. N'importe, cela peut se réparer. Vous avez encore une capsule.
J'attends.
Debout, à deux pas de la jeune fille, il fixait sur elle un regard enflammé qui exprimait la résolution la plus indomptable. Dounia comprit qu'il mourrait plutôt que de renoncer à son dessein. Et sans doute, elle le tuerait maintenant qu'il n'était plus qu'à deux pas d'elle. Tout à coup, elle jeta le revolver.
« Vous refusez de tirer ?» dit Svidrigaïlov étonné. Et il respira longuement. La crainte de la mort n'était peut-être pas le plus lourd fardeau dont il sentait son âme délivrée. Toutefois, il lui aurait été difficile de s'expliquer à lui-même la nature du soulagement qu'il éprouvait. Il s'approcha de Dounia et la prit doucement par la taille. Elle ne résista point, mais toute tremblante le regarda avec des yeux suppliants. Il voulut parler. Sa bouche ne put proférer aucun son.
« Lâche-moi !» pria Dounia. S'entendant tutoyer d'une voix qui n'était plus celle de tout à l'heure, Svidrigaïlov frissonna.
« Ainsi tu ne m'aimes pas ? » demanda-t-il d'un ton bas.
Dounia fit de la tête un signe négatif.
« Et tu ne pourras pas m'aimer ? Jamais ?»
continua-t-il avec l'accent du désespoir.
« Jamais !» murmura-t-elle.
Durant un instant, une lutte terrible se livra dans l'âme de Svidrigaïlov. Ses yeux étaient fixés sur la jeune fille avec une expression indicible. Soudain, il retira le bras qu'il avait passé autour de la taille de Dounia et, s'éloignant rapidement de celle-ci, il alla se poster devant la fenêtre.
« Voilà la clé !» dit-il après un moment de silence.
Il la prit dans la poche gauche de son paletot et la mit derrière lui sur la table, sans se retourner vers Avdotia Romanovna.
« Prenez-la. Partez vite. »
Il regardait obstinément par la fenêtre. Dounia s'approcha de la table pour prendre la clé.
« Vite, vite !»
répéta Svidrigaïlov. Il n'avait pas changé de position. Ne regardez pas celle à qui il parlait. Mais ce mot « vite » était prononcé d'un ton sur la signification duquel il n'y avait pas à se tromper. Dounia saisit la clé, bondit jusqu'à la porte, l'ouvrit en toute hâte et sortit vivement de la chambre. Un instant après, elle courait comme une folle le long du canal, dans la direction du pont. Svidrigaïlov resta encore 3 minutes près de la fenêtre. À la fin, il se retourna lentement, promena ses yeux autour de lui et passa sa main sur son front. Ses traits, défigurés par un sourire étrange, exprimaient le plus navrant désespoir. S'apercevant qu'il avait du sang sur sa main, il le regarda avec colère. Puis il mouilla un linge et lava sa blessure. Le revolver jeté par Dounia avait roulé jusqu'à la porte. Il le ramassa et se mit à l'examiner. C'était un petit revolver à 3 coups, d'ancien modèle. Il y restait encore 2 charges et 1 capsule. Après un moment de réflexion, il fourra l'arme dans sa poche, prit son chapeau et sortit.